Radio Enco.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence. 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 Différence.
Radio Enco.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Enco, le podcast qui fait la différence. Christian au micro, accompagné pour la première partie de cette interview par Lucas.
Bonjour.
Lucas.
Bonjour.
Par Thomas. Bonjour Lucas.
Bonjour Thomas. Christian.
Et par Wassim.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Frédéric Lapcaz, qui est référent handicap à la mairie de Toulouse et qui nous fait l'honneur d'être présent à Café & Co. Frédéric, merci à vous de votre présence.
Merci à vous de m'avoir invité.
Bien, avec plaisir. Avec mes collègues, nous avons pas mal de questions à vous poser. Alors, merci pour votre disponibilité. Mais tout d'abord, comme je me demande à chaque invité, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Alors, je suis Frédéric Lacaz. Je suis le chargé de mission handicap à la mairie de Toulouse et Toulouse Métropole depuis juin 2015.
Et merci à vous.
Quel a été votre parcours professionnel ?
Alors, j'ai commencé ma carrière en tant qu'agent d'entretien voie publique en mars 2001. Et ensuite, j'ai évolué en passant les concours et examens de la fonction publique et en devenant attaché territorial depuis février de cette année.
Bravo pour cette ascension, c'est un joli parcours en tout cas dans la fonction publique.
Merci à vous.
Alors j'aurais une question, que pensez-vous de la richesse et de la pluralité des associations toulousaines prônant l'inclusion ?
Alors j'en pense le plus grand bien. Si on prend par exemple Café & Co, je trouve que c'est une excellente idée de créer un café inclusif géré par des personnes en situation de handicap, mais pas que. Ça montre que l'inclusion peut être une réalité et pas qu'un vain mot. Et au-delà de Café & Co, il y a une multitude d'acteurs associatifs qui fait la richesse de notre ville et qui permet de pouvoir inclure et accompagner les personnes en situation de handicap.
Vous auriez des exemples d'autres associations sur Toulouse qui prônent l'inclusion ?
Ben, il y a la ZEI également, il y a ce qui est fait par l'emploi accompagné, il y a la GAPEI. Il y a de multiples acteurs qui accompagnent l'inclusion. Après, il y a aussi tous les référents handicap qui permettent de pouvoir recruter des personnes en situation de handicap dans des entreprises publiques ou privées parce que pouvoir travailler ou être accompagné, c'est très bien pour tout le monde.
Comment se recruter les personnes en situation de handicap ? Ont-ils la même formation que les valides ?
Alors, nous, à la mairie de Toulouse et à Toulouse Métropole, les personnes en situation de handicap sont recrutées sur la base des compétences. Parce qu'au-delà du handicap, il y a des compétences. Ensuite, en tant que référent handicap, j'accompagne au quotidien l'inclusion dans les collectifs de travail. Par exemple, en mettant en place des actions de sensibilisation, de la formation pour que l'inclusion puisse se faire du mieux possible. Et ensuite, dans la fonction publique, il existe aussi des systèmes dérogatoires permettant aux personnes en situation de handicap qui ont un niveau de diplôme équivalent au concours de ne pas avoir à passer le concours, qui est parfois une étape difficile pour eux.
Alors, vous avez déjà un peu répondu à la question. J'allais vous demander un peu concrètement, voilà, quelles sont vos activités, vos tâches au quotidien.
Alors, on va dire que le référent handicap, c'est un peu le couteau suisse. Il y a plein de missions, ce qui fait un petit peu la richesse du poste. Par exemple, on met des actions sur le recrutement, sur la formation, de la sensibilisation des équipes. Par exemple, la semaine dernière, on a fait une sensibilisation aux troubles cognitifs, au 10 et à l'autisme. On met aussi des actions de maintien à l'emploi parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir le handicap en cours de carrière puisque 85% des handicaps se déclarent au cours de carrière. Ensuite, c'est accompagner le reclassement ou la reconversion professionnelle des personnes en situation de handicap. Donc ça fait une multitude de tâches qui font, on va dire, la richesse du poste.
J'ai vu sur LinkedIn là, que vous êtes rattaché à aux ressources humaines.
Oui.
Est-ce que ça veut dire que vous travaillez exclusivement avec le personnel ou est-ce que vous avez un rôle aussi par rapport aux élus handicapés pour veiller à ce qu'ils aient des bonnes conditions pour exercer leur mandat et comme conseiller auprès des élus en général pour savoir si leur politique concerne le handicap ou est-ce que ce n'est pas du tout votre secteur en fait ?
Alors moi, je m'occupe des agents ou futurs agents, en lien bien entendu avec les élus. Donc moi, je dépends, comme vous l'avez dit, des ressources humaines dont mon élu de référence est Henri de la Goutine. Mais je travaille également en lien avec l'élu en charge du handicap, Christophe Alves. Et au-delà des missions en interne, je travaille aussi avec un réseau de partenaires pour pouvoir diffuser nos offres d'emploi pour que les personnes en situation de handicap puissent y candidater.
Merci. Donc vous êtes vraiment sur le volet emploi. Voilà,
oui, c'est ça.
Pourquoi êtes-vous sensible à la question du handicap ?
Alors, déjà parce que je suis moi-même en situation de handicap, invisible, et parce que je suis sensible à ces questions-là, parce que il y a besoin que tout le monde puisse travailler, parce que je me rends compte tous les jours que les personnes en situation de handicap ont des compétences et qui font une richesse dans un collectif de travail.
Quelles difficultés rencontrez-vous au quotidien dans votre travail, en particulier les freins, les préjugés, les inerties ?
Alors, tous les collectifs de travail ne sont pas forcément bienveillants. Il peut y avoir parfois de la maladresse. Après, il y a aussi la peur de l'inconnu. Avec le référent emploi accompagné, nous accompagnons depuis un certain temps une personne où nous avons pas mal de freins à lever, l'incompréhension du handicap, la peur aussi, ce qui peut être normal. Donc c'est à nous à expliquer, on va dire, tout l'accompagnement qu'on peut mettre en place, de la sensibilisation d'équipe, un tutorat, un accompagnement extérieur pour permettre que l'inclusion puisse se faire. Alors après, dans certains collectifs de travail, ça peut être plus facile que dans d'autres.
Vous travaillez directement avec les agents sur le terrain ou c'est des animations collectives que vous organisez
Alors après, il y a les deux. Il peut y avoir des animations collectives, comme je disais tout à l'heure, de la sensibilisation aux différents handicaps. Alors moi, mon souhait, c'est plus axé sur le handicap invisible parce que c'est plus compliqué et abstrait pour les personnes. Mais c'est également aussi de l'accompagnement individuel de personnes. Par exemple, une personne qui veut faire une reconversion professionnelle, accompagner le recrutement, accompagner des difficultés comme par exemple remplir le dossier de la MDPH pour la reconnaissance qualité de travailleur handicapé ou autre. C'est, on va dire, pour résumer, c'est une partie de collectif et une partie d'individuel.
Rencontrez-vous les personnes avant de les recruter ?
Alors, ce n'est pas mon niveau, nous on a un service de recrutement qui recrute. Alors, s'il y a des besoins, par exemple, dernièrement, on a pu mettre en place un interprétariat en langue des signes pour un jury de recrutement concernant une personne sourde. Moi, je suis là en support pour, on va dire, accompagner et faciliter le recrutement. Mais moi, alors, j'accompagne après, on va dire, le recrutement s'il y a besoin, parce qu'il y a des handicaps qui ne demandent pas plus d'accompagnement que ça, mais s'il y a besoin de mettre en place, par exemple, une formation pour le manager ou une sensibilisation pour le collectif de travail, là, les équipes de recrutement feront appel à moi.
Donc on a fait un petit turnover, parce qu'on est beaucoup de monde aujourd'hui à Café & Co, et on accueille autour de la table Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour.
Yanis, bonjour Yanis, et Zora,
bonjour.
Nous sommes toujours avec Frédéric Lacaze et je vais vous poser, Frédéric Lacaze, ma première question. J'aurais voulu savoir, mais vous y avez répondu déjà en partie, quels sont les grands axes de politique en faveur des handicapés de la part de la mairie de Toulouse ?
Ça va me permettre de compléter un petit peu mes propos précédents. Donc on est en convention avec le Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique depuis 2011. Nous sommes actuellement à notre troisième convention qui va se terminer à la fin de l'année. Donc nous rentrerons dans le quatrième conventionnement avec la mairie de Toulouse. Toulouse Métropole, le Centre communal d'action sociale, le Centre toulousain des maisons de retraite et l'établissement public du Capitole qui gère l'orchestre et l'opéra que vous avez au Capitole ou à la Logrem. Donc ça représente à peu près 15 000 agents. Et donc la politique handicap de la collectivité a deux versants. Le versant concernant les agents ou futurs agents et le versant concernant la politique publique pilotée par mes collègues du domaine handicap, accessibilité et vie publique et vie sociale, pardon. Dans les axes de la politique interne que je pilote, nous avons le recrutement, la formation, la sensibilisation, la communication, le maintien dans l'emploi et le reclassement. D'accord. Et également l'innovation. Donc ça représente plusieurs facettes que, en tant que référent handicap, je me dois d'être un petit peu le chef d'orchestre de toute cette politique handicap RH.
Vous connaissez les groupes d'entraide mutuelle ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer ?
Alors, ce n'est pas quelque chose que je connais particulièrement. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que mes collègues de la communauté municipale de santé pilotent un conseil local de santé mentale avec plusieurs associations représentées et qui organisent chaque année les semaines de la santé mentale.
Que pensez-vous de l'initiative de COF & Co?
Je n'en pense que du bien. Depuis le début, j'ai été un petit peu associé aux activités par Sébastien. Je suis venu plusieurs fois. Je trouve que c'est très bien ce qui est fait parce qu'il y a besoin de pouvoir faire des actions de formation, d'avoir un lieu, comme je disais tout à l'heure, inclusif, géré par des personnes en situation de handicap ou pas. Je trouve que c'est une excellente initiative et assez innovante en France et c'est bien que ça puisse se faire à Toulouse.
Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur en matière de politique en faveur des personnes en situation de handicap ?
C'est que les personnes en situation de handicap puissent être incluses comme n'importe quelle autre personne dans les collectifs de travail au sein de la mairie de Toulouse et Toulouse Métropole. Parce que je me rends compte au quotidien de la richesse qu'elles peuvent apporter aux équipes et une équipe, pour être bien et être performante, faut qu'elle soit diverse et qu'elle représente l'ensemble de la société.
Comment peut-on vous contacter ?
Il y a deux choses. Donc, si vous souhaitez candidater sur des postes à la mairie de Toulouse ou Toulouse Métropole, vous avez sur le site une page recrutement. L'intérêt que je peux amener, c'est accompagner une fois le recrutement fait. Par contre, s'il y a besoin, vous pouvez envoyer un mail avec la candidature que moi, je pourrais transmettre au service. Mais vous pouvez candidater via la page, les informations qui sont sur la page de la mairie de Toulouse.
Alors, je vais élargir le sujet sur l'emploi, justement. Où en êtes-vous au niveau de l'emploi pour ce qui est des personnes en situation de handicap au sein de la collectivité?
Alors nous, on a deux taux d'emploi puisqu'on a un taux d'emploi qui est de à peu près 7,80 à la mairie de Toulouse et un petit peu en dessous à la métropole. On est à 5,80, il me semble. Alors après, la différence, c'est que moi, je me rends compte en tant que référent handicap des deux entités, qu'à la mairie de Toulouse, sur des métiers genrés à majorité féminin, c'est plus simple de parler de handicap que sur des métiers genrés masculins à la métropole.
Et quel type d'emploi vous proposez?
Alors après, dans les collectivités, on a de plus de 200 métiers dans plus de 80 directions. Donc c'est un peu aléatoire, c'est selon les besoins de direction. Ça peut être des recrutements de jardiniers, d'assistants administratifs, de relations usagers, d'ingénieurs, parce qu'après on a des personnes en situation de handicap, pas que dans des métiers dits de base, on a des managers en situation de handicap, on a aussi des cadres, par exemple l'adjoint au directeur général des services est en situation de handicap, il y a à toutes les échelles et dans la plupart des métiers.
Parce que, par exemple, je connaissais une personne qui travaillait au standard, justement, de la mairie, mais ça n'a pas été repris, le poste. Pouvez-vous me dire les raisons ?
Alors après, les raisons, je ne les connais pas forcément. Après, il y a des recrutements, soit en tant que contractuel, soit en tant que permanent. Après, on a aussi une politique handicap ambitieuse concernant l'apprentissage. On a des apprentis en situation de handicap qu'on recrute chaque année.
D'accord. Alors, une toute autre question. Alors ça, ça concernerait plutôt le logement. Alors, il y a de nombreux logements vides à Toulouse. Alors, que ferait la mairie, justement, ou proposerait plutôt, pour les mettre à disposition, oui, de personnes ou d'associations?
Alors là, je ne vais pas pouvoir vous répondre, puisque moi, mon cœur de métier, c'est l'emploi des personnes en situation de handicap dans la collectivité. Le logement dépend plus de mes collègues du domaine handicap. Après, ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, nous sommes dans un bâtiment qui a été mis à disposition d'associations, puisque ces bâtiments de ex-Orange aurait pu être voué à destruction ou être vendu à un promoteur, et le choix a été fait en attente de d'autres choses, de pouvoir le mettre à disposition d'un ensemble d'acteurs locaux, dont Café & Co.
D'accord. Mais justement, il va falloir justement déménager, donc... voilà, donc c'est le bâtiment est quand même amené à être détruit et...
Après, là, moi, je ne peux pas vous répondre à ce niveau-là. C'est plus, on va dire, des décisions politiques qui me dépassent. Et moi, je ne peux pas me répondre à la place des élus de la collectivité.
Donc, mais justement, ça suit la question précédente. Et ces locaux, donc, comme vous me disiez que c'était pas vraiment votre domaine, mais est-ce que vous les proposeriez à des personnes handicapées, ces locaux-là, ces locaux vides, voilà, qui en ont besoin?
Alors, je peux que réitérer mes propos. Moi, je peux pas vous répondre. C'est pas mon domaine de compétence et ça serait malhonnête. À mon niveau de répondre à cette question.
Comment adaptez-vous le poste de travail ?
Alors, il y a plusieurs possibilités. Donc, c'est fait en lien avec le médecin du travail qui va faire des préconisations puisqu'il va mettre en adéquation l'aspect médical du handicap avec des préconisations d'aménagement qui peuvent être techniques, organisationnelles ou humaines selon la typologie de handicap. Par exemple, ben, ça peut être un siège ergonomique, un bureau réglable en hauteur, un accompagnement humain, un aménagement d'horaire, ça peut être du transport domicile-travail, ça peut prendre plusieurs façons diverses et variées.
Est-ce que vous seriez intéressé par apprendre le braille, pour apprendre le braille?
C'est pourquoi pas, ouais. Après je suis curieux de tout. Après apprendre c'est une chose, après il faut le pratiquer. Par exemple, moi j'ai fait une formation en langue des signes française, oui. Et quand on ne pratique pas, on perd vite le bénéfice.
Mais nous reprenons le fil de notre échange avec Frédéric Lacaze. Donc, et maintenant, je suis accompagné par Mehdi.
Bonjour.
Par Gabriel.
Bonjour.
Et par Luc.
Bonjour.
Alors, Frédéric Lacaze, moi, j'avais une première question à vous poser. Je voulais savoir quel est les agents handicapés, que ce soit de la mairie ou de la métropole. Quelle est la part des recrutements et de la part du reclassement? Je vous pose la question parce que j'avais été frappé il y a 25 ans. J'avais rencontré une responsable de la mairie de Toulouse. Et à l'époque, elle m'avait fait une réponse très surprenante. J'étais un jeune diplômé. Elle m'avait dit « Ah, mais vous comprenez, à la mairie de Toulouse, on n'a pas besoin de recruter des personnes handicapées parce que malheureusement, nous avons beaucoup d'accidents sur des chantiers, par exemple, ou de personnes qui deviennent handicapées au cours de leur vie. » Donc, on doit s'occuper déjà de nos propres agents, de trouver une solution. Est-ce que c'est toujours la doctrine aujourd'hui de la mairie de Toulouse ?
Alors, c'est une réponse, on va dire, d'il y a 25 ans.
Oui, à peu près,
depuis, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Alors après, je vous ai cité tout à l'heure les taux. Ce n'est pas parce qu'il y a de bons taux de bénéficiaires à l'obligation d'emploi qu'on ne doit pas continuer à recruter des personnes en situation de handicap. Parce qu'après, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on recrute sur la base de compétences. Que la personne soit homme, femme, en situation de handicap ou pas, selon l'orientation sexuelle, le quartier d'habitation, on recrute voilà, sur la base de compétences. Donc après des recrutements de personnes en situation de handicap, il y en a tout au long de l'année, sur des postes de catégorie C, B ou A. Après, il y a aussi du reclassement, mais voilà, c'est pas parce qu'on on a des personnes en situation de handicap en cours de carrière qu'on ne recrute pas. Après, je trouve la réponse, on va dire, maladroite et qui n'engage que celle qui l'a tenue il y a 25 ans.
Et merci pour cette réponse rassurante. Et on continue avec...
Que pensez-vous du traitement de la question du handicap dans notre société ?
Vaste débat. Alors après, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il reste encore du chemin à parcourir. Parce que pour qu'on recrute dans la fonction publique ou dans des entreprises privées, il faut que l'inclusion se fasse dès l'école. Parce que c'est à ce niveau-là où l'inclusion ne s'est pas faite, après pour évoluer au niveau du collège, du lycée ou de l'université, ça va être très compliqué. Voilà, ça on va dire c'est le début. Après, l'inclusion à l'école, ça va permettre aussi aux enfants que le handicap soit moins compliqué qu'à l'âge adulte, parce qu'après, là, on se rend compte que sur certaines générations, on va dire, il y a des propos maladroits, mais si ça s'est fait dès le plus jeune âge, ça sera moins compliqué et ça ne sera pas une difficulté. Voilà, moi, je m'en rends compte en discutant avec mes nièces qui, dans leur classe, ils ont des personnes autistes ou des personnes 10 et autres, ce n'est pas une difficulté pour elles. Voilà, un enfant qui soit en situation de handicap ou pas, ça reste un enfant, donc il ne faudrait pas qu'à l'âge adulte, ça soit différent.
Avez-vous une autre mission que la référence handicapée ?
Très bonne question, puisque je vais pouvoir répondre. C'est quelque chose qui est d'avant-hier. Hein, donc là, après, qui est aussi la continuité de mes missions liées au handicap, puisque je vais être le pilote de la période préparatoire au reclassement. Donc je vais accompagner le reclassement dans la collectivité qui est en lien avec notre conventionnement FIP. Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique.
Où en est la ville de Toulouse dans son travail d'accessibilité ?
C'est, on va dire, la loi de 2005. Donc, dans 2 ans, nous fêterons les 20 ans. Il reste encore du chemin à parcourir parce que l'accessibilité, l'agenda d'accessibilité programmé a été en retard par rapport à ce qui était prévu en 2005. Donc après, les travaux sont en cours. Il y a de plus en plus de bâtiments qui sont accessibles, mais il reste encore du travail et d'ici quelques années, ça va aller en s'améliorant. Ensuite, au-delà des bâtiments, il y a le métro avec la mise en place des pictogrammes, de l'accessibilité qui s'améliore. Après, il reste des choses à faire. Par exemple, le Mobibus, où apparemment, il y a certains bugs dans les réservations du Mobibus. Mais voilà, au-delà de ce que moi, je fais en interne, il y a une grosse politique handicap aussi envers les usagers. Ensuite, il y a aussi l'accessibilité des musées. Mes collègues essaie de rendre les œuvres accessibles. Donc là, moi, j'ai pu voir au musée des Augustins où il y a des œuvres qui sont accessibles pour différentes typologies de handicap. Donc après, moi, c'est un peu mon credo, c'est la politique handicap, c'est un petit peu la politique des petits pas. On avance doucement, mais sûrement.
Là, on parlait de l'accessibilité, un peu des établissements qui accueillent le public. Pour revenir à votre cœur de métier, Moi, j'avais envie de vous demander si globalement les locaux de travail de la mairie sont accessibles, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Et aussi, maintenant, on sait que, notamment grâce aux nouvelles technologies, les personnes handicapées peuvent occuper de plus en plus de postes. Est-ce que vous avez un exemple qui vous a marqué d'aménagement de postes qui paraissait au départ compliqué pour une personne handicapée, quel que soit son handicap, et qui maintenant, ça se passe super bien et que ça a permis d'ouvrir le champ des possibles?
Après, les dispositifs évoluent avec le temps. Hein. On travaille aussi sur l'accessibilité numérique. Par exemple, notre site intranet est accessible à 74%. J'ai eu le rapport hier. Donc après, voilà, tout n'est pas parfait, mais qui a été aussi testé par des personnes en situation de handicap. Ensuite, il y a différents dispositifs. Par exemple, il peut y avoir des logiciels de dictée vocale, par exemple, qui peuvent aider pour les 10. Il y a aussi des logiciels qui peuvent accompagner la déficience visuelle ou d'autres. Il existe aussi la visio-interprétation pour les personnes sourdes également. Donc il y a une multitude de compensation du handicap. Après, voilà, la technologie s'améliore d'année en année. Donc après, il existe aussi différents dispositifs comme ce qu'on appelle les prestations d'appui spécifique qui permettent par typologie de handicap que des spécialistes puissent nous accompagner pour acheter le meilleur matériel possible afin de compenser le handicap de la personne.
Merci pour ces précisions. Et au niveau des bâtiments, est-ce que vous n'avez pas des difficultés dans les bâtiments historiques les plus anciens, notamment au niveau du déplacement des personnes en fauteuil ou pour d'autres handicaps
Alors après, il y a des rampes d'accès. Nous, on a un site qui s'appelle Valade où même il y a eu une rampe d'accès d'installer pour rendre les salles de réunion accessibles aux personnes en fauteuil roulant.
Les élus sont-ils comptés dans la liste des salariés?
Non, les élus ne sont pas agentes ou agents de la collectivité. Ils ne touchent pas un salaire, ils touchent une indemnité. Alors après, par rapport à la compensation de handicap pour les élus, pour l'instant, il y a un vide juridique un petit peu qui est à l'étude, on va dire, du gouvernement. Autant pour les salariés du privé, il y a des compensations qui peuvent être mises en place avec l'AGFIP ou avec le FIP dans la fonction publique, mais pour la compensation des élus, il n'y a pas de prise en charge par un organisme extérieur.
Ah oui, c'est très compliqué. Donc, c'est un peu ce que je vous demandais au début. Donc, pour le moment, vous ne les accompagnez pas dans l'exercice de leur mandat, en fait, pour s'assurer que tout va bien pour eux. Qu'ils ont pas de...
Après, ça se fait. Il y a de la compensation, il y a des aides accordées, mais c'est à une prise à 100% par la mairie de Toulouse ou par la métropole, selon si c'est un mandat municipal ou métropolitain.
D'accord.
Qu'avez-vous prévu pour améliorer la ville?
Alors, à mon niveau, moi, j'améliore, on va dire, l'emploi des personnes en situation de handicap. Après, c'est mes collègues du domaine handicap, accessibilité et vie sociale qui travaillent avec les associations pour rendre la ville plus accessible. Mais au niveau de l'emploi, c'est pouvoir donner, on va dire, la même chance aux personnes en situation de handicap que les autres sur la base de leurs compétences. C'est après travailler avec un réseau de partenaires, les universités, l'emploi accompagné, différentes associations pour diffuser les offres. Après, on a aussi Cap Emploi comme partenaire pour que c'est, on va dire, c'est comme au loto. Hein, plus il y aura de candidats qui postuleront, plus il y aura de personnes recrutées dans la collectivité.
Pouvez-vous décrire votre rôle au sein de la collectivité?
Alors après, je l'ai plus ou moins déjà fait. Donc là, le rôle, c'est... Après, ce qui est intéressant dans ce poste, c'est qu'il n'y a pas une journée qui va ressembler à la précédente parce que ben, c'est tous les jours différent, donc c'est alterné avec de la sensibilisation, de la communication, de la mise en place de formation, c'est de l'accompagnement de personnes en situation de handicap au niveau individuel. Par exemple, ce matin, moi, je rencontrais une personne qui avait besoin d'aide pour remplir son dossier pour faire la reconnaissance qualité de travailleur handicapé. C'est aussi accompagner des agents sur le reclassement ou une reconversion professionnelle. C'est outiller les managers, expliquer ben, l'intérêt de recruter des personnes en situation de handicap. Voilà, tout ça se fait, on va dire, la richesse de ce poste.
Alors, moi, je vais prendre une question au hasard, parce que j'en ai plusieurs encore, mais je voulais dire, je trouve que votre parcours est assez exemplaire quand même, parce que vous avez commencé donc comme agent d'entretien, c'est ça, dans la mairie ?
C'est ça.
Et donc, vous êtes arrivé aujourd'hui à avoir des responsabilités, voilà, au niveau de l'insertion des personnes handicapées. Est-ce que dans votre travail, vous, au-delà du recrutement ou du reclassement, vous veillez aussi à la mobilité interne, c'est-à-dire qu'on sait que dans la fonction publique notamment, c'est très compliqué pour les personnes handicapées de progresser. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes attaché également ?
Alors, c'est une très bonne question, puisque c'est au-delà de mes missions dans la collectivité, je siège au comité des usagers du fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique. Et mardi, justement, on réfléchissait à voir comment on pouvait améliorer l'évolution de carrière des personnes en situation de handicap. Parce que c'est vrai, on recrute. Les personnes se mettent parfois des freins, suivent peut-être moins de formation que d'autres collègues. Et c'est un axe de travail qui va être travaillé par le gouvernement et les établissements publics s'y afférents, pour justement mettre en place des dispositifs pour faciliter l'évolution de carrière des personnes en situation de handicap.
Vous parliez des handicaps invisibles. Et là, moi, je suis par exemple concernée par l'épilepsie. Et là, on a du mal, dès qu'on évoque ça, ça bloque au niveau des entreprises. Qu'en pensez-vous ?
Alors après, moi, c'est plus aux médecins à voir par rapport à ce type de handicap, les moyens de compensation qui peuvent être mis en place pour vous permettre de travailler dans les meilleures conditions possibles. Après, moi, à mon niveau, ce n'est pas l'aspect médical du handicap. Après, moi, les collègues que j'accompagne, je ne leur demande pas s'ils sont 10, s'ils sont autistes, s'ils sont aveugles ou sourds. Moi, ce qui m'intéresse à mon niveau, c'est savoir comment on peut compenser le handicap. Après, ça peut être peut-être, dans votre cas, un aménagement horaire, peut-être un accompagnement humain. C'est plus aux médecins qui vous recevrez...
Dans le CV, par exemple, on nous demande quand même de justifier les handicaps et quelquefois, bon, c'est un peu compliqué de... non-voyant, ça va, ça passe. Et encore, ça, c'est pas toujours évident, mais par contre, quand on évoque d'autres handicaps, ça bloque quand même.
Alors, moi, si je devais faire un jury de recrutement... moi, la question, c'est là où on sensibilise les équipes du recrutement, parce qu'il y a des questions qu'on peut poser et d'autres qui n'ont pas à être posées. Moi, si je devais vous poser une question, c'est savoir est-ce que vous avez besoin d'un aménagement de poste ? La nature de votre handicap, il n'y a pas à être posé. Donc, sur votre CV, ce que vous pouvez mettre, c'est que vous êtes RQTH, reconnu qualité de travailleur handicapé. Après, la nature du handicap, vous n'avez pas à la spécifier. Ça s'appelle, si vous n'étiez pas pris à cause de ça, ça serait de la discrimination et c'est interdit par la loi.
Mais donc, merci Frédéric Lacaze d'avoir accepté de vous prêter au jeu des questions-réponses et pour votre disponibilité. Nous avons reçu avec plaisir en tout cas, et je ne sais pas si c'est la première fois que vous venez à Café & Co ou pas. Qu'est-ce que vous retenez de votre passage ou de vos différentes visites dans ce lieu innovant ?
Déjà, merci à vous pour vos questions qui ont été très pertinentes. Très, très intéressante, et c'est toujours un plaisir de venir ici parce que je découvre de la richesse, et c'est très important. Merci à vous.
Merci.
Radio & Co.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence. Différence. Différence.
Radio & Co.